franceinter.fr.
Les secrets du charbon de la grotte Chauvet à la une de la science aujourd'hui.
Sur ce panneau, vous avez en premier une petite rhinocéros. Vous avez des animaux. Alors vous avez ici les traces d'un mouchage de torche. Et ces traces sont très fraîches puisque là, vous pouvez voir des petits charbons qui sont tombés lors du mouchage.
Dominique Baffier, conservatrice de la grotte Chauvet de 2000 à 2014. Et dans une étude publiée hier, des chercheurs du CNRS présentent l'analyse de presque 200 fragments de charbon de bois récoltés dans la grotte ornée de Chauvet. Chef-d'œuvre de l'art pariétal, la célèbre grotte ardéchoise a été décorée il y a 30 000 ans, principalement avec deux types de pigments, des ocres et du charbon. Alors cette étude des résidus charbonneux révèle une organisation minutieuse des feux dans les centaines de mètres de galerie et une sélection de bois bien particulière qui était peut-être dédiée uniquement à l'ornement. On en discute, Axel, avec votre invité.
Oui, Daniel, nous sommes avec l'archéologue Jean-Michel Geneste. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez dirigé le programme d'études scientifiques de la grotte entre 2002 et 2017. Et ces charbons de la grotte avaient déjà été étudiés puisqu'ils ont permis de dater les périodes d'occupation humaine à Chauvet. Alors comment est venue l'idée de les ressortir, de retravailler dessus puisqu'apparemment ils avaient beaucoup de choses à dire encore?
Oui, en effet, ils avaient beaucoup de choses à dire et au fil des années, depuis le 2002, ils s'étaient accumulés. Et leur nombre, près de 200, soit 71 exactement, permettait d'avoir une connaissance plus détaillée ou de leur choix et en même temps de leur représentativité environnementale, puisque le charbon de bois étudié par les anthracologues, cela consiste essentiellement à identifier leur état de conservation, leurs cellules, mais surtout identifier l'espèce. Et cela nous donne une information sur l'environnement.
Bien sûr, oui, et c'est la première information notable de cette étude, c'est que quasiment tous les restes charbonneux proviennent de bois de pin. Comment est-ce que vous expliquez ce choix unique, si c'est un choix d'ailleurs?
Alors pour les deux anthracologues, Isabelle Théry et Stéphanie Thiébault, qui ont conduit cette recherche puisque c'est la leur, il est apparu au bout d'un certain nombre d'années que cette prédominance du pin sylvestre était problématique, ou en tout cas qu'elle permettait d'orienter les interprétations quant à la multitude de foyers de charbon qui sont dans la grotte et peut-être de déterminer s'il y avait eu un choix intentionnel. Il faut savoir que dans la grotte Chauvet, les charbons, il y en a à peu près sur toute la surface du sol, tant il est bien conservé, mais ils sont à différents endroits. Tout à l'heure, vous entendiez Dominique Baffier parler d'un mouchage de torches, parce qu'il y a eu des torches avec qui ont laissé des petits débris, mais vraiment de minuscules charbons de bois. Il y a d'autres endroits de grands emplacements où l'on voit des concentrations d'assez gros charbons de bois, l'endroit où un feu a été fait sur le sol. Et à d'autres endroits, si nous n'avons plus de charbon de bois, il y a eu de tels feux que le plafond ou la paroi sont carbonisés, couverts de suie ou totalement rubéfiés si cette paroi ou ce plafond n'est pas très élevé. Donc vous voyez, il y a eu de multiples feux et probablement de multiples zones de production de charbon de bois.
Mais pour se projeter un peu dans la grotte, comment faut-il imaginer l'usage de cette grotte il y a 30 ou 40 000 ans? On dessinait dedans, c'est certain, mais est-ce qu'on y vivait, est-ce qu'on y habitait?
Les grottes et les grottes ornées ne sont pas spécifiquement des lieux d'habitat. On n'y trouve pas des restes alimentaires, justement des traces de foyer pour la cuisson, bien qu'à Chauvet on puisse s'interroger. On est plutôt sur l'idée de multiples fréquentations, étalées dans le temps, quelquefois des centaines d'années, mais plutôt quelquefois à échelle de millénaires, donc des groupes qui viennent réaliser les œuvres. L'espace est malgré tout organisé, on pourrait dire socialisé, avec des aménagements, des blocs entassés, des manipulations d'ossements dans la grotte Chauvet, notamment des ossements d'ours, et les œuvres sur les parois qui sont tantôt gravées, tantôt peintes en rouge, tantôt dessinées avec du charbon de bois. Donc une multitude d'activités et sans doute peut-être une assez grande diversité d'occasions de venir dans la grotte pour regarder ces représentations et certainement obéir à des pratiques qui étaient fréquente dans ce milieu souterrain et en tout cas en vigueur pendant une vingtaine de milliers d'années dans ces sociétés de chasseurs qui allaient faire leur représentation dans le milieu souterrain, essentiellement des représentations animales.
Alors Jean-Michel Jeunesse, reste une question tout de même, il y a ces traces de feu un peu partout dans la grotte, des feux gigantesques qui atteignent parfois le plafond de la grotte. Comment faisaient-ils ce feu sans être eux-mêmes incommodés par les fumées ?
Alors, les feux ont eu comme pour fonction de produire du charbon de bois, puisque c'est précisément avec lui qu'une partie des dessins noirs ont été faits. Ils font des conditions de production pour le charbon de bois qui ne sont pas trop d'oxygène, mais plutôt une carbonisation lente pour obtenir du bon charbon de bois. Mais en même temps, comme ces foyers sont implantés plutôt dans les zones profondes de la grotte, sinon les tréfonds et les galeries étroites, il est évident, et là il n'est pas nécessaire d'être archéologue pour le comprendre, ces feux ont produit aussi de la fumée. Et peut-être cette fumée était-elle un des objectifs de ces grands foyers.
Alors, dans quel but ?
La fumée, alors oui.
La fumée sert peut-être sur le plan symbolique, comme dans un certain nombre de pratiques. Elle est habituellement considérée, traverser un écran de fumée, c'est s'envelopper de quelque chose qui est une partie de la production, de la technique et de la culture humaine. Ça peut aussi désinfecter, ça peut épurer. Mais la fumée aussi, dans une grotte, c'est quelque chose qui va repousser peut-être les hommes, mais en tout cas les animaux. Et nous sommes dans une grotte qui était immensément fréquentée par les ours à certaines périodes de l'année. Et peut-être la fumée était-elle utilisée, ainsi que l'envisagent les auteurs de l'article, comme un moyen de repousser pendant plusieurs heures ou peut-être plusieurs jours les animaux, les grands carnivores.
Pour en revenir un petit peu au charbon, Jean-Michel Jeunesse, est-ce qu'il y avait une industrie particulière autour de ces pigments charbonneux ? Est-ce que ça nécessitait des techniques ou une organisation pour passer du charbon au pigment et à la peinture ?
Au fusain, parce qu'ils utilisaient ces charbons comme fusain.
Les charbons ont été utilisés comme fusain. Vous avez, et on a en tête ce que représente un fusain. Un fusain est un charbon qui laisse aisément sur un support une trace sombre qui doit être très noire. Le charbon doit donc être relativement tendre. Et les anthropologues s'interrogent si justement la production de ce feu à partir de ces feux n'étaient pas orientés en partie vers la production de charbon de bois d'une qualité telle qu'elle convienne exactement à la production de dessin. Un charbon trop dur ne va pas laisser de traces. Un charbon trop friable, on ne va pas le tenir dans le doigt. Donc le choix du pain et l'implantation des feux, les températures de combustion, l'humidité des bois, tout cela sont des critères qui ont contribué à la production d'un charbon de bois de bonne qualité.
Eh oui, des vrais artistes avec des vrais choix d'artistes. Merci Jean-Michel Jeunesse de nous avoir éclairé sur ces charbons de bois. Et Axel Villard, à demain.
À demain, Daniel.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, ils courent toute la journée et pourtant semblent bien moins fatigués que nous. Si vos enfants vous épuisent, voici un début d'explication physiologique. Des chercheurs de l'université de Clermont-Auvergne se sont intéressés aux secrets de l'endurance des plus jeunes. Ils ont cherché à savoir s'ils emploient l'énergie oxydative, celle qui puise les sucres et les lipides du corps, ou l'anaérobie qui provoque une fatigue musculaire. Les résultats de leur expérience comparative entre des sportifs adultes, des non-sportifs et des jeunes âgés de 8 à 12 ans indique que les enfants utilisent principalement l'oxydation. De ce fait, ils récupèrent particulièrement bien. Et en plus, chez eux, contrairement aux grands sportifs, l'acide lactique responsable des courbatures est produit en moindre quantité. De véritables marathoniens, en somme. Des alevins qui valent de l'or, interdits à l'exportation hors de l'Union européenne depuis 2009, la civelle, c'est le nom de la progéniture des anguilles, est menacée par le braconnage et la revente massive sur les marchés asiatiques. La population des alevins de ce poisson migrateur a subi une diminution de 75% en 30 ans. Barrages, pollution, pêche et braconnage sont en cause. Vendue entre 1000 et 4000 euros le kilo à Hong Kong, la civelle peut être l'équivalent du caviar, d'où le phénomène de contrebande. En 2017, 48 arrestations et d'importantes saisies ont été effectuées par l'agence Europol. Les chiffres d'affaires générés par ce trafic s'élèveraient à plus de 3 milliards d'euros. Et pour terminer, une bonne et une mauvaise nouvelle pour les grands singes. Une large étude menée sur 10 ans en Afrique de l'Ouest équatoriale dénombre plus de gorilles et de chimpanzés que prévu. 10% en plus pour les chimpanzés et 30% pour les gorilles. La mauvaise nouvelle, c'est que pour 80% d'entre eux, ils vivent dans des aires non protégées et donc plus sensibles aux maladies, au braconnage ou à la perte d'habitat. Précision importante, ces différences d'effectifs sont dues à une actualisation de la méthode de comptage. Elle ne signifie pas que les grands singes vont mieux. On les avait simplement mal comptés auparavant, précise le WWF.